Votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Arnaud Pontus.
La libre antenne est ouverte. Appel sur l'actualité vous donne la parole sur le sujet de votre choix, comme chaque vendredi. Et on va d'abord écouter ce matin vos premiers commentaires sur le Mali et le Zimbabwe. Premier commentaire depuis les annonces hier des résultats des premiers tours des élections présidentielles dans ces deux pays. 33 9 693 693 70. Vos messages aussi sur Facebook et Twitter. Pour commencer, donc, nous parlons du Mali parce que vous êtes très nombreux à réagir aux résultats de ce premier tour de la présidentielle. Les chiffres sont tombés hier soir. En tête, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, avec 41,42% des voix. Son principal opposant, Soumaïla Cissé, arrive deuxième avec 17,8% des suffrages. Ibeka et Soumaïla Cissé s'affronteront donc au second tour le 12 août. Vos premières réactions ce matin. Bonjour Abderrahman.
Bonjour Arnaud.
Vous êtes à Bamako, la capitale du Mali. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats de ce premier tour ?
Tout à fait Arnaud, je suis satisfait en même temps dessus. En fait, je suis satisfait déjà pour féliciter l'administration pour avoir réussi à organiser ces élections. Oui. Et je suis vraiment satisfait du niveau de ces élections et de la qualité de ce qui s'est passé compte tenu de la situation sécuritaire du pays qui n'est plus à démontrer.
Donc vous dites pour le déroulement du scrutin, mais en même temps vous êtes déçu, pourquoi ?
Je suis déçu par rapport aux résultats, c'est-à-dire que par rapport aux résultats, ça a montré déjà que, par exemple, l'échec des opposants. Bon, je pense qu'il y a eu l'échec des opposants qui n'ont pas su avoir un consensus autour d'eux. Et donc, le peuple n'a pas inspiré confiance au peuple et qui a préféré garder le mal qu'il connaît.
Je peux vous demander pour qui vous avez voté, Abderrahman ?
Moi, j'ai voté pour la nouvelle génération parce que pour moi, je me dis, il faut qu'on passe à une nouvelle génération. Il faut une alternance générationnelle. C'est cette génération d'hommes politiques, ils ont tous une moyenne de 70 ans. Pour moi, il est temps qu'on les mette à la retraite. Et pour moi, il faut que la nouvelle génération s'engage dans la politique. Et cette équation, cette élection qui s'est passée, nous a démontré effectivement cette utilité qu'il faut une nouvelle vague et qu'on finit avec les retraités.
Abderrahman, qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite avec ce second tour donc entre Ibeka et Soumaïla Cissé ?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va partir vers un gouvernement d'union nationale. Ce qui est clair, le peuple a choisi. Et pour moi, le peuple n'est pas satisfait forcément du bilan de Ibeka, mais a préféré le moindre mal, si je m'exprime ainsi.
Pour vous, ça ne fait pas de doute qu'il sera élu au second tour, si je vous entends.
Je crois qu'il sera réélu et pour moi, il faut qu'on aille vers la paix, il faut qu'on aille vers l'union sacrée et pour moi, il faut que les Maliens, surtout pour un gouvernement d'union nationale et qu'on puisse travailler pour lutter contre l'insécurité, la malgouvernance, la corruption et s'occuper des peuples.
Merci Abderrahman pour cette réaction en direct de Bamako. Nous sommes maintenant à Douenza, c'est dans la région de Mopti, toujours au Mali, avec Ousmane. Bonjour Ousmane.
Bonjour Serge.
Est-ce que vous êtes satisfait de la perspective de ce second tour ?
Je suis très satisfait, très satisfait.
Oui. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? C'est l'arrivée en tête d'Ibeka qui était votre candidat, si j'ai bien compris.
Oui.
Vous pensez qu'Ibeka doit continuer ?
Absolument. Il a ouvert pas mal de chantiers. S'il faut remettre tout ça en cause, ce serait un problème.
Vous n'êtes pas déçu tout de même de voir qu'aujourd'hui, il n'est pas élu dès le premier tour. Dans son camp, on disait un coup sec, vous avez entendu cette formule durant la campagne.
S'il était élu au premier coup, moi-même j'allais dénoncer.
Ah bon, pourquoi ?
Pourquoi ? Non, c'est pas normal, cela ne pouvait pas se faire.
Ouais.
Avec 24 candidats, qu'ils soient élus dès le premier tour, ça, c'est de la fraude pure et simple.
Ah oui, vous voulez dire que si Ibeka avait été élu dès le premier tour, on aurait pu parler de fraude et vous l'auriez dit vous aussi.
Moi, je l'aurais dit. Quoi qu'il soit mon candidat, je l'aurais dit.
Merci Ousmane d'avoir été en ligne avec nous de Douenza, dans la région de Mopti. On a bien compris que le 12 août, vous voterez pour le président sortant. Louba est à Bamako. Bonjour Louba.
Bonjour Youba.
Youba, pardon, j'ai mal prononcé votre nom, je suis désolé. Vous êtes d'abord soulagé de constater qu'il y aura un second tour.
Oui, absolument. Je suis soulagé, je vais vous dire, parce que je suis passé par plusieurs états au cours de ces dernières semaines.
Oui.
Parce que d'abord, je me posais beaucoup de questions et j'étais très sceptique par rapport à l'organisation effective de ces élections. Parce que je ne voyais pas comment on pouvait distribuer autant de millions de cartes en 2 mois.
Oui.
Et aussi, j'avais peur des affrontements communautaires qui se passaient dans mon pays. Mais au lendemain des résultats, au lendemain du premier tour, j'étais très soulagé de voir la maturité qu'avaient démontré nos populations en allant voter dans la paix et dans le calme.
Ouais. Et vous nous disiez, avant la publication des résultats hier soir, que s'il n'y avait pas de second tour, ce serait une catastrophe. Pourquoi ?
Oui. S'il n'y avait pas de second tour, j'allais penser que ça aurait été une insulte à l'intelligence collective des Maliens.
Mmh.
Parce que tout simplement, 23 candidats, et puis au vu du bilan qui n'est pas trop satisfaisant du président actuel, je me demandais comment être un seul candidat aurait pu faire plus de 50%.
Mmh. Comment vous voyez le second tour qui s'annonce, Yuba ?
Bien sûr, je vais vous dire, je ne vais pas me satisfaire de la perspective seule du second tour. Je vois que le second tour, les deux sont déjà jetés, voyant l'écart qu'il y a entre les deux candidats.
Vous pensez que la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta ne fait aucun doute ?
Ben, je ne regarde pas dans une boule de cristal, mais oui. je dis qu'il y a un écart assez suffisant.
C'est votre sentiment ?
Je voudrais dire. Oui. Voilà, ce que je voudrais dire, surtout, c'est qu'il faudrait que ce deuxième tour serve à quelque chose. Il faudrait que ce deuxième tour serve à consolider nos acquis démocratiques en imposant aux différents candidats le respect de leur population en venant débattre devant nous des programmes qu'ils ont pour nous. Il faut qu'on sache désormais, avant qu'on dispose de nous, ce qu'on entend faire de nous et avec quels moyens on entend le faire.
Oui.
C'est tout.
Vous espérez un débat télévisé, radio-télévisé, entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, c'est bien ça ?
Absolument, et si possible en Bambara. Et je vais vous dire pourquoi.
Je vous écoute.
Alors, parce que tout simplement, dans un premier temps, le Bambara est la langue vernaculaire la plus répandue au Mali.
Oui.
Et deuxièmement, c'est un devoir moral pour tout homme politique qui respecte son peuple, de venir lui expliquer comment il entend diriger ce pays et avec quels moyens il entend le faire. Il faut qu'il soit contredit et c'est même un exercice pédagogique qu'ils
oui.
doivent subir envers nos populations. Il
oui,
faut
oui.
qu'ils nous expliquent dans les thèmes qu'on puisse comprendre comment ils veulent gérer le pays et quels sont les tenants et les aboutissants de l'exercice du pouvoir.
Oui, on a bien compris votre message, Yuba. Vous espérez un débat entre les deux finalistes avant le second tour qui aura lieu le 12 août. Merci, Yuba, qui nous appelait de Bamako. Vous pourrez bien évidemment revenir sur la question de ce second tour qui se prépare au Mali ces prochains jours. Ce sera le thème du débat lundi dans Appel sur l'actualité. Vous serez avec François Mazet. Promis, vous pourrez tous parler, mais comme c'est la libre antenne, on va parler d'autres sujets aussi et d'autres sujets qui font l'actualité, notamment le Zimbabwe. Puisque l'élection est bouclée maintenant, les résultats officiels définitifs sont tombés. Emmerson Mnangagwa est déclaré vainqueur dès le premier tour. Il obtient 50,8% des voix, 44,3% pour son principal adversaire Nelson Chamisa. L'opposition qui rejette ces résultats va saisir la justice. Rejoice est avec nous. Bonjour Rejoice. Vous habitez Victoria Falls. Est-ce que vous êtes surprise par ce résultat officiel ?
Non, en fait, pas du tout. Je savais d'avance et je pense que la majorité de la population savait que Emmerson Mnangagwa allait remporter les élections.
Mmh. La ZANU-PF, le parti au pouvoir, qui a aussi remporté la majorité absolue au Parlement, tout ça vous semble logique, en fait ?
Je ne sais pas si je peux dire logique, mais... De toute façon, on savait, ZANU-PF est au pouvoir depuis l'indépendance.
Mmh. Depuis 1980, oui.
Depuis 1980, oui. Et au mois de novembre, Mugabe, qui représentait ZANU-PF, qui était le président de ZANU-PF et le président du Zimbabwe, a démissionné parce que ZANU-PF n'en voulait plus, parce qu'il voulait remporter ses prochaines élections présidentielles. Donc, ils n'ont pas fait tout ça pour après perdre les élections au mois de juillet. Donc, personnellement, et je pense aussi que la majorité de la population savait que Emmerson Mnangagwa allait remporter ces élections.
Est-ce que le scrutin vous a semblé clair, transparent? En fait, est-ce que l'élection s'est déroulée normalement ou est-ce qu'il y a, comme le dit l'opposition, eu des fraudes et des vrais problèmes?
Ok. Normalement, quand vous dites normalement, c'est un différent normalement du Zimbabwe.
Oui, d'accord.
Et, ça s'est passé différemment et pas normalement. Comme ça se passait
jusque-là.
Les dernières élections, jusque-là, comme ça se passait jusque-là. Donc ça s'est passé différemment, c'était plus libre, il y avait, je pense, plus d'égalité, plus... Ça s'est passé beaucoup mieux normalement.
Oui, vous avez entendu ce que disait Nelson Chamisa ce matin, il parle de faux résultats non vérifiés. C'est quand même inquiétant pour la suite.
Mais est-ce qu'il a une preuve? Est-ce qu'il a des preuves? Je pense que il faut de l'unité dans le pays. Oui, il fait partie de l'opposition, mais il faut pas inciter sans preuve toutes ces choses. C'est ce qui a causé mercredi des protestations et 6 morts. Donc, je pense qu'en tant que président du parti de l'opposition, il devrait suivre le processus de justice avant de déclarer qu'il a remporté les élections présidentielles. Il faut qu'il ait des preuves.
Ouais. Vous espérez un apaisement de la situation, si je vous comprends bien, Idris.
Oui, c'est ça.
Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été en ligne du Zimbabwe avec nous, de Victoria Falls précisément. On aura l'occasion forcément de revenir sur ce qui se passe au Zimbabwe sur l'antenne de RFI et peut-être aussi dans Appel sur l'actualité. Une autre actualité politique en Afrique vous fait beaucoup réagir aujourd'hui. C'est la préparation de la présidentielle en RDC. Hier, Jean-Pierre Bemba a déposé son dossier de candidature. Aujourd'hui, un autre opposant, Moïse Katumbi, voulait rentrer au pays avec l'intention de se présenter. Puis on a appris tout à l'heure qu'il renonçait à atterrir à Lubumbashi. Il va tenter de regagner la RDC par la Zambie. Bonjour Jean.
Bonjour Arnaud.
Vous nous appelez de Lubumbashi. Est-ce que vous pensez tout simplement que Moïse Katumbi va pouvoir effectivement rentrer en RDC?
Tout est fait pour créer une cacophonie qui m'incite à vous dire qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Parce que Moïse est empêché de rentrer. On a déployé des très grands moyens ici à Lubumbashi. Je suis présent dans la ville.
Oui.
Personne ne peut aller à la frontière. Tous les vols ont été annulés à l'aéroport. On a chassé tout le monde de l'aéroport. En ville, on est en train d'arrêter tous ceux qui sont habillés en blanc, parce que Moïse avait demandé à ce que les gens s'habillent en blanc pour couleur de la paix. Mais tout cela me montre vraiment, Arnaud, que les élections dans ce pays n'auront pas lieu dans le calme, comme on a dit, et que même en doute, les élections n'auront pas lieu parce que les autres, le pouvoir s'est réuni à Kinshasa. Pendant plus d'une semaine, on n'a pas sorti un nom d'un candidat.
Oui, on n'a pas encore le nom du candidat du camp présidentiel, alors qu'il faut déposer les candidatures jusqu'au 8 août, c'est-à-dire mercredi prochain. Il reste peu de temps.
Bon, jusque-là, il n'y a rien lors de ce temps-là. Et en plus, M. Kabila se permet de refuser l'aide internationale pour l'organisation des élections. Et cela prouve à suffisance qu'on n'a pas envie d'organiser des élections parce que le pays n'a pas les moyens d'organiser seul les élections avec son étendue, son immensité et tout ça. Et je crois personnellement que les urnes ne pourront même pas circuler. Jean-Pierre Bemba, on annonce déjà par le camp présidentiel que sa candidature sera invalidée. Et s'il faut aller déposer les urnes au nord, où Jean-Pierre Bemba est très populaire, et s'il faut déposer des urnes à Danga, où Moïse Katumbi est très populaire, je ne vois pas comment cela va se faire.
Ouais. On comprend, Jean, que vous nous dites ce matin que vous pensez, en fait, que ces élections prévues, on le rappelle, en décembre, ne se tiendront pas.
ne se tiendront pas parce que c'est le meilleur moyen, c'est la méthode qui gagne. Kabila a pu profiter de 2 ans. Pendant 2 ans, il a pu se payer la tête des gens. Et aujourd'hui, pourquoi va-t-il changer de méthode puisqu'on lui interdit un troisième mandat? Il va continuer dans le glissement.
Merci Jean, merci d'avoir exprimé ce point de vue ce matin sur RFI. Patrick est avec nous. Bonjour Patrick.
Bonjour Arnaud Pontus.
Vous êtes congolais, vous nous appelez de région parisienne. Vous aussi, vous êtes assez sceptique sur la tenue des prochaines élections en RDC.
Oui, je voudrais juste donner mon point de vue par rapport à cela. En tant que Congolais, mais aussi en tant que juriste, enseignant, en disant que c'est quelque chose d'assez surprenant, mais c'est assez prévisible. Je vais m'expliquer dans ce cas, dans ce sens. Ça se peut surprendre dans le sens où on s'attendait à ce que Kabila puisse avoir la possibilité, une marge de manœuvre beaucoup plus étendue.
Oui.
Mais avec la libération de Jean-Pierre Bemba, tout a été changé. Et on est allé un petit peu de surprise en surprise, et même Kabila et sa famille politique ont été pris un peu de coup par les événements. D'autre part, c'était assez prévisible pour savoir que le processus électoral en République démocratique du Congo ne va pas navigue un peu sur les on navigue un peu en eau trouble parce que Kabila a montré depuis plusieurs années sa mauvaise foi en ne voulant pas organiser les élections dans le délai et en voulant à tout prix s'accrocher au pouvoir par tous les moyens et par toutes sortes de subterfuges. Dans ce contexte où nous assistons à une stratégie de containment qui consiste à maintenir Moïse Katoum éloigné de la conquête du pouvoir le plus longtemps possible et à phagocyter Jean-Pierre Bemba au point de lui empêcher même le sommeil et ainsi lui laisser beaucoup moins de marge de manœuvre, l'idée c'est de permettre à la famille de Kabila, à la famille présidentielle, sa majorité présidentielle, comme on le dit, de pouvoir avoir une position proactive et que les autres restent toujours dans la réaction. Et c'est ça qui a fait la force de Kabila jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le contexte actuel, je pense que les jeux ont été, les cartes ont été rebattues et le jeu va changer. Mais je pense que
c'est-à-dire en faveur de qui? En faveur de qui est-ce que le jeu est rebattu d'après vous? En faveur de l'opposition?
Plutôt en faveur de l'opposition, parce qu'il suffit de voir la réaction du pouvoir de Kinshasa vis-à-vis de Moïse Katumbi. Il est recherché pour être arrêté, d'après ce que dit le dernier communiqué du parquet de Lubumbashi publié hier. En même temps, le monsieur veut rentrer dans son pays, mais on l'empêche d'atterrir. C'est un petit peu paradoxal, on ne retrouve ça que dans le pouvoir de Kinshasa. De l'autre côté, pour Jean-Pierre Bemba, on autorise à la personne de rentrer au Congo, mais subitement on invoque une chose que moi j'ai jamais entendue en République démocratique du Congo, l'existence d'une zone ou d'un périmètre présidentiel. Jean-Pierre Bemba n'est pas armé, il est contrôlé par la police.
Alors ça, c'était lors de son arrivée, où effectivement, il n'a pas pu dormir dans la résidence où il comptait passer la nuit, parce qu'il était dans le périmètre présidentiel à Kinshasa.
Oui, je rappelle qu'il y a plusieurs personnes qui habitent dans ce périmètre présidentiel, qui sont accompagnées
sans par que ça pose
police,
problème.
Notamment.
C'est ça que vous nous dites, Patrick.
Azarias Roubérois et tant d'autres personnalités politiques habitent dans ce périmètre sans que ça pose problème. Mais je pense qu'on assiste à quelque chose de changeant. Il n'y aura peut-être pas élection, peut-être ça aura lieu à la fin de l'année, mais je crains que ça puisse se passer comme dans l'entre-deux tours. Souvenez-vous, quand Kabila avait attaqué Jean-Pierre Bemba dans sa résidence alors qu'il était avec des ambassadeurs, je pense que ça va finir de cette manière, que Kabila va encore décider d'attaquer soit Katumbi, soit Bemba, mais de toutes les façons, ce sera la population qui sera perdante et le processus va en pâtir.
Merci Patrick, congolais donc et habitant en région parisienne, d'avoir donné votre point de vue ce matin dans la Libre Antenne sur RFI. Toutes mes excuses à Gigio qui nous appelait de Brazzaville et qui voulait s'exprimer au sujet de la levée du mandat d'arrêt contre le pasteur Ntoumi. Mes excuses aussi à Eugène qui de Douala au Cameroun voulait revenir sur l'affaire Benalla en France et nous dire que ce n'était pas une affaire d'État et qu'il était bien content que les motions de censure aient été rejetées cette semaine. Il y aura d'autres occasions de parler sur l'antenne de RFI. Merci à tous de vos appels, vos messages sur Facebook et Twitter. La semaine prochaine, c'est François Mazet qui sera aux commandes de